Köszönjük minden műszakra is.
Paris Live with me, today's headlines.
Accent du monde. Philippe Le Caplain.
Bonsoir et bienvenue dans Accent du monde de retour de vacances. Voici l'actualité vue par les rédactions en langues étrangères de RFI, votre radio dans toute sa richesse et sa diversité. Ce soir, c'est avec vous, Lucia Musel. Bonsoir.
Bonsoir.
De la rédaction brésilienne pour la mobilisation sans précédent des indigènes à propos d'une décision de la Cour suprême concernant leurs terres ancestrales. Pour la rédaction en russe, Denis Streklov.
Добрый вечер.
Alors que les défenseurs des libertés ont toujours maille à partir avec le pouvoir en Russie avant les élections qui auront lieu dans 2 semaines. Et puis, Asbel Lopez de la rédaction
en espagnol,
pour nous parler de l'arrivée du et de Messi au club de foot du PSG.
C'est ça.
Avant cela, ce qui fait la une de l'actualité, c'est bien sûr l'Afghanistan. Aujourd'hui, les pays de l'Union européenne ont dit leurs conditions pour leurs relations futures avec les talibans. L'UE va se coordonner pour assurer une présence civile à Kaboul afin d'aider aux évacuations qui continuent. De son côté, le Qatar, en première ligne dans les négociations internationales avec les talibans, espère voir ouvrir des corridors humanitaires dans les aéroports dans les 48 heures qui viennent. Lucia Musel, à la rédaction brésilienne, vous avez mis en avant, lors de cette crise qui continue, les reportages faits par nos correspondants sur place.
Oui, c'est toute la richesse de RFI, de France 24, dans ces moments clés de l'histoire géopolitique mondiale. Avec nos correspondants sur place, nous avons pu suivre de près cette évacuation de milliers d'étrangers et Afghans qui ont travaillé avec les forces étrangères pendant ces 20 dernières années. Et maintenant, la vie d'après aussi, comme ce reportage de Sonia Ghezali sur la manifestation des femmes afghanes pour leurs droits à la ville de Herat et que nous avons republié en portugais ce vendredi avec beaucoup de succès d'ailleurs. Ou bien le récit de Cyril Payen de France 24 juste après le départ des Américains de l'aéroport où il a retrouvé des talibans habillés comme des Américains et armés avec des fusils de dernière génération. La presse brésilienne, Philippe, malheureusement, elle est absente de l'Afghanistan et même de la région entière. Donc, nos reportages exclusifs avec ce regard des correspondants a beaucoup intéressé à nos auditeurs, nos internautes brésiliens, ainsi que nos partenaires qui ont rediffusé nos contenus en portugais.
Oui, d'où l'intérêt d'écouter RFI. Un mot, Lucia Musel, est-ce qu'il y a eu des Brésiliens qui ont été évacués d'Afghanistan ?
Et oui, 2 citoyens brésiliens et leur famille afghane sont partis du pays à la fin des opérations d'évacuation. Après plusieurs jours d'angoisse à l'aéroport de Kaboul, leur identité et leurs fonctions là-bas sont gardées en secret par le gouvernement brésilien. On sait juste qu'au total, 13 personnes ont été prises en charge, d'abord lors d'une opération de l'Allemagne et l'Espagne, et ensuite avec l'aide du gouvernement pakistanais.
Quant à la Russie, qui est intervenue en Afghanistan dans les années 80 et qui en est partie une main devant, une main derrière, comme aujourd'hui d'ailleurs les États-Unis, la Russie, Denis Streklov, à la différence de nombreux pays dans le monde, ne craint pas l'arrivée au pouvoir de ces talibans.
Effectivement, ça arrange bien la Russie. De point de vue officiel, le Taliban y est toujours une organisation terroriste. Son activité est strictement interdite en Russie, mais en réalité, ce sont déjà des partenaires légitimes pour Moscou. Le Kremlin a fait un pari risqué d'ailleurs. Depuis les années, la Russie ne cache plus ses liens avec les talibans. En 2017, les médias afghans ont affirmé que Moscou investit dans ce mouvement clandestin et que la Russie fournit des armes aux talibans. Le but était d'aider à combattre l'État islamique, son ennemi hostile, mais il n'y a jamais eu des preuves avérées et crédibles de ce soutien. Ce qu'on sait avec certitude, c'est que les talibs se rendaient souvent à Moscou bien avant leur arrivée au pouvoir. Ils étaient reçus au plus haut niveau, et sur les photos, ils posaient avec le ministre des Affaires étrangères russe Sergei Lavrov, même si la loi russe les considère comme des terroristes. À ce moment-là, c'était important pour la Russie d'établir un partenariat avec toutes les forces politiques du pays et pourquoi pas renforcer sa présence diplomatique au Moyen-Orient. En retour, les talibans se sont engagés à ne pas mener la politique hostile envers Moscou.
Et alors, pour l'homme fort du Kremlin, est-ce que c'est une sorte de victoire ?
Pour Vladimir Poutine, ce qui compte vraiment, c'est que les États-Unis ont échoué en Afghanistan, que l'approche politique par les pays de l'Ouest n'a pas marché. Voici ce qu'il a dit juste après l'arrivée du taliban au pouvoir.
Нужно прекратить безответственную политику по навязыванию извне чьих-то
Alors que dit Vladimir Poutine?
D'un ton sévère, Vladimir Poutine martèle, il faut arrêter d'imposer la démocratie dans le monde entier sans tenir compte de la culture, de l'histoire, des traditions. Bref, l'Afghanistan a fait son choix et en Russie on l'accepte. C'est la politique des États-Unis qui a échoué et c'est l'heure pour la Russie de marquer sa présence. Une politique qui a déjà porté ses fruits d'ailleurs, pendant que les ambassades américaines et européennes se réfugiaient à l'aéroport, les diplomates russes n'ont même pas bougé à Kaboul, ils sont protégés par les talibans. Pour eux, la situation dans la ville est tranquille. Leur évacuation n'est pas d'actualité.
Bah, finalement, Denis, le but de cette politique menée par Poutine, est-ce qu'on peut parler de politique risquée de la part du Kremlin?
Si vous regardez la carte du monde, vous verrez que l'Afghanistan n'est pas si loin de la frontière avec la Russie. Le pays qui est déjà passé sous contrôle des talibans se trouve à côté du Turkménistan et du Tadjikistan, des partenaires russes dans cette région. Ce qui fait peur à la Russie, c'est de perdre le contrôle des situations, de faire de l'Afghanistan un berceau de terrorisme international. Je vous rappelle que la Russie a déjà mené une guerre meurtrière à l'Afghanistan à l'époque de l'Union soviétique et sa répétition serait une catastrophe pour Moscou du point de vue économique et politique. Donc il vaut mieux établir de bonnes relations avec ceux qui sont au pouvoir. Il y a encore un souvenir pénible pour la Russie. Pendant la guerre de Tchétchénie, les talibans ont soutenu les séparatistes. Bien que maintenant, c'est le calme qui règne dans cette région de la Russie, le risque il est toujours là. Et Moscou a fait le choix de soutenir le Taliban pour se protéger en premier.
Alors, il soutient les Talibans, ce gouvernement russe. Est-ce qu'il pourrait en reconnaître le gouvernement?
Pour l'instant, ce n'est pas la propriété de Moscou. La Russie se montre plutôt réticente et préfère de surveiller les situations. Ça n'a rien à voir avec le respect des droits de l'homme, mais bon, si les talibs se rendent bienveillants par rapport à Moscou et s'il n'y aura pas de vraies tensions, c'est possible. Mais ce que redoutent les experts russes, c'est que Moscou, Washington et Bruxelles vont tenter de prendre les situations en Afghanistan sous leur contrôle. Voici les paroles de politologue Arkady Dubnov.
Надо думать об Афганистане в первую очередь, а не о геополитике высокой, понимаете, а не о столкновении больших дядей.
Alors, quelle est son opinion?
Pour lui, si l'Afghanistan devient un champ de bataille pour les puissances étrangères, ce sera une vraie catastrophe pour le pays. Il faut penser surtout aux Afghans et oublier les enjeux géopolitiques, un point de vue qui n'est pas partagé par tout le monde.
Alors justement, concernant cette géopolitique, Lucia Mouzel, Joe Biden a donc précipité la sortie des Américains de l'Afghanistan, mais les États-Unis sont loin de pouvoir tourner complètement la page.
C'est très compliqué, c'est pas si simple que ça, l'enjeu est détail. D'abord, il faut établir quelles relations auront-ils avec les talibans désormais, c'est pas du tout clair pour l'instant. Ensuite, le risque de terrorisme, bien sûr, la branche locale du groupe État islamique, responsable de l'attaque meurtrière à l'aéroport de Kaboul la semaine dernière, qui a coûté la vie à plus de 100 personnes au minimum, y compris 13 soldats américains, reste une menace pour les Américains et ses alliés sur place. Aussi, sur le point de vue géopolitique, il y a le rapport avec la Chine et la Russie, justement. Ces deux pays se montrent désireux d'une relation cordiale avec les talibans, voire amicale dans le cas de Pékin. Washington ne peut donc pas tout simplement tourner le dos à cette nouvelle configuration qui s'installe.
Et puis il y a aussi cet autre pays important dans la région, hein, c'est l'Inde. L'Inde qui n'est pas très satisfaite de la façon dont les Américains sont partis, Lucien.
Tout à fait, c'est ce que nous rappelle notre chroniqueur de politique internationale, Thiago d'Aragon, installé à New York, j'ai dit en portugais. Le gouvernement indien attend des signes plus rassurants de son allié américain. On l'écoute.
A aliança que cresceu muito ao longo dos últimos 2-3 anos, ela acaba sendo primordial para a estratégia americana de
contenção. Que dit-il sur le poids, sur la situation de l'Inde dans cette crise?
Il dit que l'Inde est un allié de poids des Américains dans leur stratégie contre l'influence chinoise, surtout dans la région. Mais l'Inde pense que l'instabilité en Afghanistan peut s'étendre vers son archirival Pakistan. L'Inde, en fait, attribue aux talibans plusieurs attaques qui ont eu lieu dans son territoire ces deux dernières décennies, avec une participation plus ou moins direct et accuse les Pakistanais de se servir des talibans pour l'attaquer. Ainsi, le gouvernement indien est très inquiet de ce qui se passe dans son voisin Afghanistan. Et pour cet analyste, donc, il faudra que les Américains restent présents d'une manière ou d'une autre.
Mmh. Isabel Lopez de la rédaction en espagnol, que dit-on en Amérique latine sur ce retrait des États-Unis d'Afghanistan?
Eh bien, sans surprise, la presse en Amérique latine n'est pas tendre envers Washington dans les pages de l'hebdomadaire mexicain proceso, un analyste parle littéralement de trahison. Mauro González Luna se dit indigné par ce qu'il appelle la trahison du gouvernement américain envers le peuple afghan, en particulier les femmes. Quant au retrait, il le qualifie d'irresponsable et bête. Dans le journal argentin Clarín, un autre analyste, Carlos Pérez-Jana, parle carrément d'échec et d'erreur des États-Unis. Pérez reconnaît néanmoins qu'il est évident depuis 20 ans que l'Afghanistan était devenu une guerre impossible de gagner. Une guerre éternelle, auquel il fallait mettre fin, comme a dit le président Biden. Cependant, ce qui est particulièrement difficile à digérer, c'est la chute éclair du régime afghan.
Oui, c'est que l'Afghanistan s'est effondré comme un château de cartes. Pourquoi, Asbel? Qu'est-ce que vous ont dit vos interlocuteurs?
Nous avons interviewé justement Mariano Aguirre, membre associé du think tank Chatham House à Londres. Cet analyste d'origine argentine parle de fausses croyances. Les États-Unis et la communauté internationale se sont bercés de ce qu'il appelle des demi-vérités et de demi-mensonges.
Creyeron que formaban un ejército cuando en realidad no había 300 000 efectivos, sino que parece que operativos no eran más de 50 000.
Précisément, qu'est-ce qu'explique Mariano Aguirre?
Pour lui, les Américains pensaient qu'ils avaient formé une vraie armée de 300 000 effectifs. Or, en réalité, d'un point de vue opérationnel, ils n'étaient que 50 000. Les Américains ont cru aussi qu'ils étaient en train de construire un État. Or, c'était un mirage. Surtout, ils ont cru soutenir un gouvernement démocratique et légitime. Or, celui-ci était profondément autoritaire et corrompu. Pour Mariano Aguirre, le retrait des États-Unis d'Afghanistan illustre une fois encore le long processus de déclin de ce qu'il appelle l'Empire américain. Ce pays semble commencer le 21e siècle avec plusieurs handicaps, selon Aguirre. Entre autres, à l'international, son incapacité à gérer les conflits internes dans d'autres pays. Et en interne, le manque d'infrastructures, le fonctionnement défaillant de son système démocratique et la cohésion sociale. Les manifestations antiracistes du mouvement Black Lives Matter illustrent ce dernier phénomène. Voilà. Le 21e siècle ne sera pas à l'avantage de l'Amérique, c'est le moins que l'on puisse dire, depuis l'Amérique latine. Cela étant dit, pour finir, Philippe, est-ce que je peux apporter une autre son de cloche?
Oui, faites donc, Asbel Lopez, on vous écoute.
Parce que j'ai trouvé quelqu'un qui n'est pas du tout d'accord avec l'idée du déclin des Américains, et c'est le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Il parle plutôt de recentrage. Contrairement à ce qui écrivent de nombreux éditorialistes, je ne crois pas que l'Afghanistan soit synonyme de déclin américain, dit-il dans une interview au Figaro ce vendredi. Il reconnaît qu'il s'agit d'un moment dur, car les images montrant la rapidité de l'effondrement et le manque de prévision ont semé le doute et l'effroi. Le fait que les talibans aient pris le pouvoir par la force, mais sans avoir à combattre, a donné une image désastreuse de l'armée afghane, des institutions politiques afghanes et en conséquence du retrait américain. Il remarque néanmoins que sur le fond, la démarche américaine correspond à une tendance de fond amorcée dès la présidence de Barack Obama et compréhensible. Surtout, il est convaincu que les fondamentaux américains, eux, vont rester les mêmes, avec des intérêts recentrés et définis plus strictement, en particulier sur ce qu'il appelle la conflictualité montante avec la Chine. États-Unis contre la Chine, c'est en effet le match du siècle.
Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette actualité majeure traitée sur toutes les antennes de Radio France Internationale.
This is Radio France International.
De Paris, RFI,
Accent du monde. Philippe Le Caplain.
Venons-en maintenant à des actualités particulièrement traitées par vos différentes rédactions espagnoles, russes et brésiliennes. Au Brésil, les indigènes sont fortement mobilisés pour éviter un énorme recul sur la délicate question de l'attribution de leurs terres. Depuis des jours maintenant, ils sont des milliers à manifester à Brasilia, qui est la capitale du Brésil. Expliquez-nous pourquoi précisément, Lucia Musel.
Oui, ils campent depuis la semaine dernière devant la Cour suprême pour montrer leur opposition à un procès emblématique, celui d'un gouverneur du sud du pays qui demande à récupérer des terres occupées par plusieurs tribus indigènes. Ce qui est au cœur de ce procès, Philippe, c'est que ce gouverneur essaye de faire passer par le biais de la justice une nouvelle formule pour l'attribution de ces terres aux Indiens. C'est le marco temporal que l'on peut traduire par référence temporelle. En l'occurrence, cette référence, c'est l'année de 1988, celle de la promulgation de la Constitution brésilienne. Selon cette solution revendiquée maintenant, seulement les terres occupées par les indigènes jusqu'à cette année-là pourraient être reconnues en tant que terres ancestrales, comme on appelle, des tribus indigènes. Autrement dit, ceux qui n'étaient pas encore ou qui ne peuvent pas prouver leur présence ancienne ne pourraient donc plus jamais réclamer ces terres.
Oui, d'autant que ce n'est pas très évident pour une tribu, pour des indigènes, de pouvoir prouver quelque chose.
Oui, c'est quelque chose qu'on n'y pense pas au départ peut-être, mais il faut avoir en tête que la plupart d'entre eux ne vivent pas comme nous, ne s'organisent pas comme nous. La paperasse, les impôts, la taxe d'habitation, ce sont nos affaires, des hommes et des femmes des villes. Et ce n'est pas l'affaire de ceux qui depuis toujours habitent au milieu de nulle part, dans la forêt, avec les animaux, vous voyez. Donc, la plupart de ces indigènes est dans l'incapacité de prouver avec des documents où exactement ils étaient en 1988 quand la Constitution brésilienne leur a enfin attribué le droit des milliers d'hectares de terre partout au pays. Les grands propriétaires terriens, les producteurs agricoles sont bien conscients de cette difficulté avide d'avoir de plus en plus de champs agricoles, ils saisissent cette opportunité.
D'ailleurs, ce gouverneur n'est pas le premier à vouloir faire adopter cette notion de référence temporelle. Des députés brésiliens essayent également de changer les règles au Congrès, hein, c'est ça ?
C'est ça. Ça fait des mois que des organisations écologistes protestent contre un projet de loi qui, depuis 15 ans, il est endormi dans les tiroirs du Congrès. Mais maintenant, un député proche des agro-businessmen l'a ressorti. Pas seulement cette histoire de référence temporelle y est citée, comme le projet prévoit que les terres indigènes pourraient ne plus être exclusivement destinées aux tribus, mais bien elles pourraient être commercialisées, par exemple. L'avocate Juliana de Paula Batista, spécialisée dans ces thèmes, nous dit que ce projet est tout simplement inconstitutionnel. On l'écoute.
É um projeto de lei mudando as regras da Constituição. Então, começa por aí.
Quel est le point de droit que fait cette avocate?
Elle explique donc que le texte change les règles de la Constitution brésilienne et ça, bien sûr, c'est interdit. Mais le projet est quand même censé être voté prochainement. Ce qu'elle craint, c'est que la majorité qui soutient le gouvernement d'extrême droite de Jair Bolsonaro pourrait faire passer ce texte malgré tout. Une majorité marquée par la puissante bancada ruraliste, c'est-à-dire des proches, qui sont proches des grands propriétaires des terres agricoles.
Mais est-ce que ces indigènes sont bien représentés au Congrès brésilien?
C'est une question très intéressante, Philippe, car parmi les presque 600 élus, il n'y a qu'un seul, ou plus précisément une députée indigène élue en 2018. C'est seulement la deuxième fois de l'histoire que les peuples originaires du Brésil sont représentés à l'Assemblée ou le Sénat, la première étant dans les années 80. Donc on comprend mieux pourquoi ce type de projet de loi existe. À l'occasion de cette mobilisation indigène, nous avons interviewé cette semaine la députée Joênia Wapichan. Pour elle, la décision de la justice sera cruciale pour faire face à cette situation très défavorable.
Significa que a decisão dele pode ser aplicada para outros casos de demarcação de terras indígenas.
Cette députée, qu'est-ce qu'elle vous a dit?
Elle dit qu'à aucun moment, probablement de l'histoire du Brésil, le Congrès n'a consulté les indigènes directement sur toutes sortes de mesures adoptées à leur égard. Et c'est vrai, la Constitution leur a garanti beaucoup de droits, mais c'était grâce à la mobilisation sociale poussée par des mouvements indigènes.
Alors finalement, la Cour suprême, elle s'est déjà prononcée sur cette question?
Le jugement de cette affaire emblématique vient d'être suspendu pour quelques jours. Les séances vont reprendre le 8 septembre, juste après le pont du jour de l'indépendance du Brésil, le 7. Mais ce jeudi, les indigènes et les défenseurs de leurs droits ont pu célébrer l'avis défavorable à cette thèse, prononcée par le rapporteur du procès, le magistrat Edson Fachin. Quelques centaines de manifestants promettent de rester campés jusqu'à la fin. Au début du procès, ils étaient 6000 à protester. Donc, on suivra l'affaire à RFI, c'est
sûr. On vous fait confiance, Lucien Mouzel, de la rédaction brésilienne de Radio France Internationale. En Russie, les élections législatives approchent. En effet, c'est le 19 septembre que les Russes vont choisir leurs députés à la Douma. Un scrutin sans surprise, on peut déjà le dire. C'est la Russie unie, le parti au pouvoir, qui obtiendra la majorité absolue. Allez, on va rester prudent, qui devrait obtenir la majorité absolue. Et le Kremlin, Denis Strelkov, fait tout pour empêcher ses opposants de gagner des sièges.
Philippe, effectivement, avant les élections, les répressions, les grandes absents de cette vote sont des partisans d'Alexei Navalny, le passant à Vladimir Poutine. La plupart d'entre eux n'ont dû quitter la Russie de crainte de perdre leur liberté, pendant que Navalny lui-même se trouve déjà en prison. En effet, il y a même la loi qui interdit de se présenter à l'élection à ceux qui ont donné de l'argent à Navalny ou à sa fondation pour la lutte contre la corruption. Pour rappel, la fondation est depuis quelques mois interdite en Russie également. C'est une loi qui fonctionne. Par exemple, Lyubov Sobol, le bras droit d'Alexei Navalny, a dû arrêter sa campagne. Le concurrent est donc déjà limité, ce qui n'est pas nouveau pour la Russie. Je me rappelle que depuis 20 ans, Vladimir Poutine est élu au premier tour avec des scores bien supérieurs à 60%. Cependant, cette année, la nouveauté, il n'y aura pas un jour des élections. Les Russes pourront voter pendant 3 jours, du 17 au 19 septembre. Et certains pourront même voter en ligne. Tout cela n'ajoute pas de la transparence aux élections.
Et pour les médias, ce ne sera pas évident de couvrir cette élection.
C'est bien ça. Pour les médias indépendants, la situation est très particulière. En fait, l'État considère que plusieurs journaux, sites d'information, même une chaîne de télé, agissent dans l'intérêt des États-Unis et d'autres pays. Ils sont désormais déclarés les agents de l'étranger, un terme qu'on n'a pas entendu depuis la guerre froide. Ouais. Et avant chaque publication, chaque émission, ils doivent ajouter ce texte-là.
Данное сообщение, материал создано и или распространено иностранным средством массовой информации.
Ce sujet a été créé ou partagé par un média agissant en tant que l'agent de l'étranger. Donc cet extrait, il dure 15 secondes, c'est obligatoire. Et pour tous les médias qui reçoivent de l'argent depuis d'autres pays, sinon ils risquent une lourde amende. Le montant de ce financement n'est pas si important que ça. Même s'il s'agit d'une chaîne de télé avec plusieurs milliers d'abonnés et dotée d'un très grand budget, un virement de 10 euros suffit. Et les revenus publicitaires font partie de ce financement, ainsi que le remboursement, les différentes donations.
Et donc, ça veut dire quoi? Au bout du compte, ça veut dire que finalement, tous les médias, ou presque, peuvent être considérés comme justement ces fameux agents de l'étranger?
Exactement. En plus, l'État n'a pas vraiment à se justifier et expliquer ses motivations. Il est impossible de faire appel. Sauf que cette loi, elle n'est pas appliquée à tout le monde, uniquement aux médias, qui ne partagent pas le point de vue officiel du gouvernement russe. Ils ont aussi beaucoup d'autres obligations. Par exemple, ils doivent déclarer tous leurs revenus, toutes leurs dépenses, sinon c'est encore une lourde amende. Puis, ce ne sont pas que les médias. Ce statut est attribué également aux journalistes indépendants et aux autres organisations. L'un d'entre eux, Golos ou Envote, c'est une ONG créée pour prévenir la fraude aux élections. Elle est également désignée comme agent de l'étranger. Voici ce qu'en pense le président Grigori Melkanian.
Движение Голос не получает никакого иностранного финансирования и вот видимо просто пытается.
Pour lui, il n'y a pas de financement venant de l'étranger dans son organisation et la décision de l'État est purement politique.
Alors, est-ce qu'on est sûr que l'apparition de ce statut agent de l'étranger est lié aux élections? Il semble que le parti au pouvoir, en tout cas, va gagner dans tous les cas.
C'est vrai qu'il est peu probable que l'opposition obtienne beaucoup de sièges et sa victoire est impossible, mais les observateurs craignent quand même des manipulations. Les journalistes de Novaya Gazeta ont eu accès à l'enregistrement d'une réunion. Ses participants apprenaient à falsifier les résultats des élections, ni vus ni connus. Abbas Galamov, un politologue, est convaincu qu'il y a quelque chose qui cloche dans le parti politique au pouvoir.
Да, безусловно, все это связано с выборами. Дело в том, что протестное настроение растет.
Alors, qu'est-ce qui cloche pour lui?
Pour lui, les mouvements de protestation sont en hausse et la popularité de Единая Россия est en baisse. Le but est d'obtenir 3/4 des sièges dans 2 semaines n'est pas facile à entendre, surtout que.
Одно дело, когда ты применяешь силу, так сказать, против людей, которые выходят, значит, огромными толпами на улицы
Surtout
городов.
Surtout qu'il n'y a plus de manifestations dans les rues de Moscou, donc on ne peut pas les disperser, ce qui fait peur aux opposants du régime et monte sa popularité.
Bien évidemment, la rédaction russe de RFI, mais pas seulement, suivra ce scrutin. C'est donc dans 2 semaines, sur 3 jours, vous me disiez, Denis Strelkov. Et c'est pas évident peut-être aussi avec la distance de couvrir cet événement. Merci à vous. Vous écoutez Accent du Monde sur RFI. Mais si. Moi, je pensais que j'allais échapper à ce sujet dans Accent du Monde. Mais non, Esbel Lopez, vous tenez absolument à revenir sur l'arrivée du footballeur argentin au PSG, c'est-à-dire au club de Paris. Alors, pourquoi est-ce que c'est pas un petit peu loin? Parce que le mercato est fini, le championnat a déjà repris ses droits.
Oui, tout à fait, Philippe, si on pense en termes de l'actualité. C'est pourquoi je vous propose de nous placer sur le long terme, car je vais vous parler d'un latino-américain qui fait de l'histoire. Accent du Monde ne doit pas rater un tel événement. Dernière fois qu'un latino-américain a marqué ainsi l'histoire, c'était en 2013, quand le cardinal argentin Jorge Mario Bergoglio est devenu le pape François. Aujourd'hui, c'est le roi Messi, la pulga, un autre argentin qui attire tout le regard.
Alors pourquoi la pulga déjà? Ça veut dire quoi?
Petit.
Petit, parce qu'il est petit.
Oui, ça.
Bon, je ne sais pas combien il mesure, mais si vous ne doutez. En tout cas, c'est le meilleur joueur de foot du monde.
Absolument. Le plus grand joueur de l'histoire du football. 6 ballons d'or, 4 ligues de champions, 10 championnats d'Espagne et 7 coupes d'Espagne. Il y a des supporters du PSG qui n'arrivent pas à croire leurs yeux, comme Ibrahim Traoré.
C'est encore surréaliste, même si je l'ai vu présenter à l'entraînement, quoi que ce soit, les images qu'on a vues à la télé, je trouve que c'est toujours surréaliste. Le Paris Saint-Germain, c'est mon club d'enfance, c'est mon club de cœur, j'allais au Parc des Princes, et de voir ce mariage-là, cette association-là, c'est un truc que j'aurais jamais imaginé, donc pour moi, c'est encore surréaliste.
Et c'est grâce à Messi que la ville de Reims a été pendant quelques heures le centre de l'attention médiatique mondiale. Le 29 août dernier, plus précisément quand le joueur argentin est entré sur le terrain pour son premier match de championnat avec le PSG. Bon, après, c'est vrai, il a joué seulement 25 minutes et c'est Mbappé qui a marqué les deux buts de la victoire. Mais qu'importe, car la légende est du côté de l'Argentin. C'est lui qui fait entrer Reims dans l'histoire. Il est non seulement un grand sportif, mais il est aussi modeste, humain et professionnel.
Des louanges, des lauriers tressés par ses amis, essentiellement argentins, forcément dingue de lui. Mais est-ce que ce n'est pas un petit peu trop tout ça?
Oui, mais c'est la France qui s'enflamme pour Messi, c'est un fait. Lors de son arrivée, les médias ont parlé de lui matin, midi et soir. Or, attention, car s'il n'arrive pas à marquer une cinquantaine de buts cette saison, s'il n'arrive pas à gagner la Ligue des Champions avec le PSG, le retour du bâton va être rude.
C'est sûr, avec un salaire de 3,5 millions par mois, on attend des résultats.
Mais bon, je vous propose de revenir sur le début de Messi en France. Entré aux minutes 66, Messi est resté, comme je disais, 25 minutes. Écoutons ce qu'a dit son entraîneur, l'Argentin Mauricio Pochettino.
Qu'est-ce qu'il dit, Pochettino?
Que c'était très bon le début, il a rassuré ses coéquipiers et s'est rassuré lui-même. Messi était plus calme après avoir touché le ballon en portant le maillot 30 du PSG. Messi était peut-être plus calme, mais c'est Mbappé plus inspiré qui a marqué et les deux buts de la victoire. En tout cas, avant de faire gagner son équipe, le PSG peut compter avec les revenus que le club va engranger à grâce à lui, parce que Messi, c'est évidemment une marque mondiale. Les places les plus chères pour le match à Reims ont grimpé jusqu'à 200 euros sur le site officiel de club, contre 120 habituellement pour les grosses affiches.
Et puis sur les réseaux sociaux, Messi fait des posts pour ses sponsors, bien évidemment, service après-vente.
Et oui, il a des engagements auprès des ONG, des organismes caritatifs. Il est une personnalité très suivie et un bon ambassadeur de ses employeurs. Pour voir le joueur de 34 ans, il a eu des achats des billets en provenance de l'Argentine, des États-Unis, encore de l'Égypte et de l'Inde.
Alors qu'est-ce qu'on dit en Argentine sur l'arrivée de Messi au PSG, Esbel?
Que ça va lui donner un nouveau souffle, ce sera bien pour lui et pour le PSG. L'ambassadeur de l'Argentine en France, Leonardo Constantino, a assuré que Messi va être le grand ambassadeur argentin à Paris. C'est une source de fierté, une joie immense pour tous. Nous avons la chance d'avoir le meilleur joueur du monde à Paris. Messi, c'est aussi un atout immense pour le championnat français de football, ainsi qu'un nouvel atout touristique pour la France et en particulier pour Paris. Une famille de Mexicains a confié à la presse qu'elle organisait ses vacances autour des matchs de Messi, d'abord à Barcelone et désormais à Paris. Ce sera très utile car Paris a perdu plus de la moitié de ses visiteurs cet été. Deux saisons sont prévues dans le contrat parfait jusqu'en juin 2023, plus une option de quoi le mener jusqu'aux Jeux Olympiques dans la capitale française.
Esbel Lopez, passionné, on le sent bien. C'était Accent du Monde à retrouver bien sûr sur le site internet de RFI. Littérature.